Nous sommes au 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. Nous avons restitué au vieux colombier, il y a peu de squares, la discussion qui a eu lieu sur ce sujet à l'Assemblée nationale.
Mes chers amis, nous vivons encore aujourd'hui sur une fiction qui consiste à dire « il y a quatre grands dans le monde ». Eh bien, il n'y a pas quatre grands, il y en a deux, l'Amérique et la Russie. Il y en aura un troisième à la fin du siècle, la Chine. Il dépend de vous qu'il y en ait un quatrième, l'Europe.
La séance est ouverte depuis le théâtre du Vieux Colombier à Paris avec les comédiens français Michel Favori, Bruno Raffaelli, Stéphane Varupen, Benjamin Laverne, Sébastien Boudrou, Christophe Montenez. « 1957, le débat de la ratification du traité de Rome. À Rome se tient ce 25 mars un sommet, 60 ans précisément, après la signature du traité de Rome. Est-ce la dernière fois que les Européens célèbrent l'anniversaire de ce texte fondateur ? La construction de l'Europe, on s'en souvient, avait commencé à 6 par un accord sectoriel concernant le fer et l'acier, la CECA. Puis on avait tenté de bâtir une Europe de la défense face à l'URSS, la CED, Communauté Européenne de Défense. Elle échoue en 1954. 2 ans plus tard, il a fallu assister impuissant à l'occupation de la Hongrie par l'armée rouge, venue réprimer la révolution de Budapest. L'expédition franco-britannique contre la nationalisation du canal de Suez échoue aussi. Les Américains n'en voulaient pas, il était impossible de se passer de leur aval. L'idée pour donner à l'Europe la place qu'elle mérite s'impose donc de passer par la voie économique. Les 3 petits pays du Benelux jouent le premier rôle dans le choix de ce marché commun que le gouvernement français du socialiste Guy Mollet finit par rejoindre. Le traité de Rome, pour nous, est négocié par le secrétaire d'État, Maurice Faure. Il prévoit la création d'un conseil des ministres décisionnaire, d'une commission chargée de la vision globale, le tout à Bruxelles, d'une assemblée parlementaire dont le siège sera à Strasbourg et d'une cour de justice, enfin, à Luxembourg. Dans le débat de ratification qui suit, en juillet 1957, les communistes se montrent toujours aussi anti-européens qu'à l'habitude. Les gaullistes sont également hostiles. Pierre Mendès France exprime de vives réserves, invoquant les risques de la précipitation et le manque de contrôle démocratique.
France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie Française, Jean Lebrun.
La parole est au rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur Alain Savary, député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le protectionnisme est allé à l'encontre des intérêts permanents de la France. Certes, il a évité à la production française la concurrence étrangère. Mais trop souvent, l'absence de concurrence étrangère a favorisé l'absence de concurrence intérieure. Dans ces conditions, il n'y avait pas d'incitation suffisante à la modernisation et à la spécialisation. Si donc ce pays veut retrouver une expansion économique qui lui permette de conserver le rang que l'histoire lui a réservé dans le concert des nations, il importe qu'il change radicalement sa politique économique. Il lui faut accepter la concurrence. Il lui faut aussi la porter à l'étranger. Il lui faut offrir à ses producteurs industriels et agricoles un grand marché. Le marché commun des marchandises, un marché plurinational à l'intérieur duquel il n'existe plus aucune restriction entravant la circulation des marchandises. Les avantages d'un grand marché, qui se substituerait à nos marchés étroits et cloisonnés, peuvent être résumés ainsi. D'abord, la libération des échanges permettra de faire jouer la concurrence, de telle manière que seront éliminés les éléments du monopole que la protection avait accordé à des entreprises qui devront, si elles ne veulent pas disparaître, soit se moderniser et se spécialiser, soit s'intégrer dans des entreprises plus vastes. Cette spécialisation et cette concentration seront particulièrement favorables au développement des séries de production et à l'abaissement des coûts. Par ailleurs, la concentration et la spécialisation doivent accroître dans de très fortes proportions la productivité. Enfin, la mobilité des travailleurs et des capitaux tend à assurer l'égalisation des coûts de travail ainsi que celle du coût du capital. La crainte a été exprimée que le traité ne bénéficie qu'au capitalisme et, en un mot, au trust. Je crois personnellement que trust et capitalisme n'ont jamais été beaucoup gênés par les barrières douanières et par les barrières politiques pour s'organiser entre eux. À l'inverse, les travailleurs ont connu les difficultés dues à ces barrières. Je pense que le marché commun, qui développera la solidarité entre les travailleurs, mettra ces derniers, pour résister à la pression du grand capitalisme, dans une situation meilleure que celle qu'ils connaissent actuellement, où ils sont divisés. Si certains abordent le marché commun et la communauté économique européenne avec enthousiasme et même parfois avec un sentiment quasi mystique, d'autres les considèrent comme une catastrophe. Pour ma part, je pense que la France devrait y adhérer, avec l'idée qu'elle accomplit un geste nécessaire à la mesure des problèmes politiques, techniques et économique du siècle. Merci.
La parole est à Monsieur Waldeck Rochet, député de Saône-et-Loire. Messieurs, Monsieur Waldeck Rochet.
Merci. Les possibilités n'ont jamais été aussi grandes pour faire un pas en avant dans la voie de la coopération internationale, en particulier entre les pays de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. Mais en créant la petite Europe des six, vous faites exactement le contraire. Vous favorisez la renaissance du militarisme allemand. Vous ne voulez pas comprendre. Vous avez trop de parti pris. Il n'y a que les directives de Rome que vous comprenez.
Vous êtes des esclaves de Moscou.
Monsieur Dide, à votre place, je me tairai lorsqu'il est question de l'Allemagne.
Allons-y.
Je comprends que ceux qui ont pourchassé les patriotes pendant l'occupation ne soient pas contents lorsqu'on met en cause le militarisme allemand.
Bon, si vous le voulez bien, monsieur Dide, vous n'avez pas la parole. Monsieur Waldeck Rochet, poursuivez votre exposé.
Mesdames, messieurs, personne ne souhaite plus que nous, communistes, le rapprochement entre les Français et les Allemands dans l'intérêt de la paix. Mais si l'on veut favoriser ce rapprochement et travailler à la réconciliation franco-allemande, il faut suivre une autre voie en s'employant à réduire la méfiance entre les États grâce au développement de la coopération entre tous les pays, quel que soit leur régime social et politique, au lieu de favoriser la renaissance du militarisme allemand, ce qui ne peut qu'entretenir la course aux armements et la guerre froide.
La parole est à Monsieur Emmanuel Temple, député de l'Aveyron.
De toute façon, avec ou sans marché commun, si nous restons dans la situation actuelle, c'est la faillite et le désastre. Il y a un minimum de 150 milliards à trouver pour équilibrer notre balance commerciale dans un cas comme dans l'autre. Qui voudra aider une nation qui n'a pas voulu rechercher dans une sortie hardie ce qu'elle ne pourra jamais obtenir dans une citadelle assiégée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que d'un côté se présentent des chances, de très grandes chances. De l'autre côté, je ne vois qu'un statu quo méprisable et méprisé où, malgré tous nos efforts, nous ne trouverons que solitude et décadence.
Merci. Nous souffrons en ce moment-ci de l'inégalité des charges sociales, des conditions de travail, du manque de parité des salaires, du manque d'une organisation commune de la production et des marchés.
Oui, bravo.
Le marché commun en prévoit l'harmonisation. Mais hors de lui, on ne nous fera aucun cadeau. L'isolement de la France serait un véritable décret de misère.
Bravo.
Entre la pente où s'est déjà amorcée notre glissade et la route montante, hérissée de difficultés, je le sais, que le traité nous ouvre, personne, il me semble, ne devrait hésiter. Demain, les problèmes de politique pure seront dépassés. Le problème qui, à présent, domine le monde est celui de la démographie. Eh oui, il y a 600 millions de Chinois, il y en aura 1 milliard dans 20 ans. Un problème de vie et d'ordre d'une puissance monstrueuse se pose. Une formidable confrontation dressera les masses humaines du globe. Dans cette tourmente, allons-nous rester seuls, susceptibles aujourd'hui, amers demain et désespérés après-demain ?
Non !
Les phénomènes qui poussent les hommes à s'unir et à s'organiser poussent de la même sorte les pays à le faire. Sans Europe, il n'y a pas de défense de l'Occident. Qui ne voit qu'au-dessus d'une alliance d'intérêts matériels, il y a aussi la défense d'un patrimoine commun au sens le plus large et le plus haut du terme. S'il n'y a pas d'esprit d'entraide, alors tout est perdu. Il faut commencer tout de suite. Les conseils de prudence cachent le désir de reporter pour ne rien accomplir.
Monsieur Marius Durbet, député de la Nièvre, vous avez la parole.
Se convaincre mutuellement comme cela se peut, comment cela se peut-il quand pour les uns et les autres, déjà, les positions sont prises? Laissons là, voulez-vous, toutes les statistiques, toutes ces comparaisons qui ne sont ni vérité ni raison, et venons-en aux traités et aux articles. Puisque nous sommes devant un marché, comportons-nous en marchant.
Voilà.
Pesant les termes de l'accord, j'y vois des choses dites d'une façon précise. Par exemple, l'égalisation des salaires des deux sexes.
Oui.
Par contre, l'incertitude la plus totale nous gagne quand on effleure la question des congés. Pour le reste, il en reste des causes de distorsion. C'est le magma. Cela tient du vœu pieux, de l'incantation. Ainsi donc, la colossale, la monstrueuse architecture économique européenne ne laisse aucune place à tout ce que notre vieille et humaine nation a su créer et modeler en délicate mosaïque.
Bravo !
Il vous manque la foi, monsieur Durbet.
C'est un don de Dieu, madame Lefebvre, et si vous voulez bien intercéder à ce sujet auprès de l'Éternel, peut-être gagnerez-vous, mais j'en doute. Seul, débile, vieilli, notre pays serait, pour certains, condamné. Gardons-nous des médecins qui, pour donner à leur pronostic mortel une absolue certitude, se décident à assassiner eux-mêmes leurs malades. Qu'ils se rappellent que sous la teinte blanche ou bleue, les bulletins que nous déposerons dans l'urne, sèchement, sans pouvoir les assortir de réserve ou de confiance, ont une gravité que chacun mesure avec précision. Notre choix pour nous, républicains sociaux, est fait. Nous voterons contre.
Bravo, bravo.
Je donne de nouveau la parole à Monsieur Valdecrochet, député de Saône-et-Loire.
Merci. L'expérience montre que lorsque l'on constitue entre plusieurs pays un marché commun, c'est obligatoirement le pays le plus puissant qui domine et évince les autres.
C'est vrai.
Or, l'Allemagne produit près de 3 fois plus de charbon que la France, près de 2 fois plus d'acier, 2 fois plus d'électricité, 2 fois plus de navires marchands et 3 fois plus de produits chimiques. Le marché commun aura également pour l'agriculture des conséquences désastreuses.
C'est le retour à la terre.
Monsieur Dietz, vous ne savez pas ce que c'est que la terre.
Oh que si, mais la vôtre n'est pas la terre de France.
Il est parfaitement ivre, ce voyou!
Venez dire ici, si vous avez un peu de courage. Mais vous n'avez que le courage des communistes.
Monsieur Dide, Monsieur Dide, je vous rappelle à l'ordre.
Monsieur Boutalon est à l'arbre.
Il a porté la Francisque pendant la guerre, tout le monde le sait. Oh.
Ce n'est pas la peine de relever ici les calomnies d'un flic complice des collabos.
Messieurs. Messieurs, silence. Monsieur Valdecrochet, continuez.
Dans le cadre du marché commun, on prévoit que seront unifiées les politiques économiques, sociales et monétaires. En bref, tout ce qui détermine la vie du pays. Et quels sont les organismes qui décideront en la matière? Ce sont le Conseil des ministres des six et la Commission européenne, où les représentants de la France sont en minorité et où, par contre, le pays le plus puissant, l'Allemagne, aura le maximum de chances de s'assurer le plus souvent la majorité et de faire prévaloir ainsi son point de vue contre la France. Notre Parlement sera alors pratiquement dessaisi de tout pouvoir sur les questions essentielles intéressant la vie économique et politique du pays. En ce qui nous concerne, ce risque, nous ne l'acceptons pas. Parce que nous voulons que la France reste un pays libre et indépendant, un pays maître de ses destinées. Il n'est pas vrai que la France aurait à choisir entre l'Europe et l'isolement. Il existe une autre voie, celle d'une véritable coopération économique, commerciale et culturelle entre tous les pays d'Europe et du monde, sans aucune discrimination. Et puisque, par égoïsme de classe et par anticommunisme, la grande bourgeoisie française et les partis politiques qui sont à son service sacrifient et trahissent l'intérêt national, les travailleurs, et avec eux tous les patriotes français, s'uniront dans l'action pour sauver l'indépendance nationale et la paix, et pour faire prévaloir une politique de coopération internationale conforme à l'intérêt de tous les peuples.
Monsieur Maurice Faure, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, vous avez la parole.
Merci. Mesdames, Messieurs, tels qu'ils sont, les traités constituent un compromis. Je n'ignore certes aucune des imperfections, aucune des lacunes de notre œuvre. Les traités pouvaient-ils définir tout à la fois une politique économique, une politique financière, une politique agricole, une politique sociale? Non. Les traités pouvaient fixer de grands objectifs, un cadre à l'intérieur duquel ils seront recherchés et des procédures. C'est ce qu'ils ont fait. Et je répondrai à ceux qui sont venus dire que rien n'était bon dans les traités, ni un article, ni un alinéa, ni même une ligne, en invoquant le vieux proverbe de Sénèque « Il ne faut jamais enseigner trop fort, et qui veut trop prouver ne prouve rien. Oh. » Vous, à l'extrême droite, et vous à l'extrême gauche, vous repoussez les traités pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le sujet.
Nous les repoussons pour défendre l'indépendance française et la paix.
En vérité, ces traités rendent à la France sa véritable vocation, qui est de mettre en contact, par l'intermédiaire de son génie universaliste, l'Europe et l'Afrique. Telle est bien la vraie mission, la véritable vocation de notre pays. Voyez-vous, mes chers amis, nous vivons encore aujourd'hui sur une fiction qui consiste à dire « il y a quatre grands dans le monde ». Eh bien, il n'y a pas quatre grands, il y en a deux, l'Amérique et la Russie. Il y en aura un troisième à la fin du siècle, la Chine. Il dépend de vous qu'il y en ait un quatrième, l'Europe. Hors de ce choix, vous vous serez résigné définitivement à marcher vers l'avenir à reculons. Merci.
La parole est à Monsieur Pierre Cotte, député du Rhône.
Le gouvernement nous propose de faire un saut dans l'inconnu et de le faire avec un mauvais parachute. Bravo. On nous dit « Ayez foi en l'Europe ». J'avoue qu'en pareille matière, une carte du lieu où nous pourrons atterrir ferait beaucoup mieux notre affaire. Et comme nous n'avons pas cette carte, ni ces garanties, nous refuserons l'invitation qui nous est adressée.
La parole est à Monsieur Pierre-Olivier Lapie, député de Meurthe-et-Moselle.
Merci, monsieur le Président.
Vous rendez-vous compte que le marché commun, nous y sommes actuellement, mais nous y sommes sans être protégés ? À partir du moment où un pays comme la France choisit une politique d'expansion, il entre dans un marché commun, puisqu'il cherche à échanger sa production avec celle des autres nations. Seulement, dans un tel marché d'importation et d'exportation, il ne jouit ni des sauvegardes, ni des protections que lui offre le traité. Alors on a beaucoup parlé de la concurrence entre la France et les autres pays associés, concurrence qui tient à l'équipement admirable, aux investissements considérables, aux machines nouvelles, aux techniciens raffinés, aux ingénieurs innombrables de l'Allemagne. Ah, cette peur de l'Allemagne! C'est une sorte de leitmotiv à peu près quotidien de tous ceux qui essayent d'empêcher la création du marché commun et déclarent « Jamais vous n'arriverez en face de l'Allemagne à réaliser une économie égale. Mais ne croyez-vous donc pas que la France peut faire aussi bien ?»
Monsieur Pierre Mendès France, député de l'Eure, vous avez la parole.
Merci, monsieur le président. À la lecture des 238 articles du traité du marché commun, des 4 annexes, des 9 protocoles et de la convention qui les suit, l'esprit d'un parlementaire est dérouté par la technicité de très nombreuses stipulations et incertain de la portée relative des règles, des exceptions, des réserves qui abondent. Je ne pourrais pas affirmer que l'Assemblée nationale sache exactement à quoi on lui demande aujourd'hui d'engager le pays. Que fallait-il faire ? Je crois qu'il faut faire l'Europe. Je suis persuadé que c'est une bonne chose en soi que des pays européens s'associent économiquement, intègrent leurs économies pour essayer de réaliser leur prospérité en commun. Mais j'aurais préféré un autre processus pour obtenir ce résultat. Plutôt que de faire ce saut dans l'inconnu que vous nous proposez, j'aurais préféré une méthode différente tendant à construire d'abord les fondations sur lesquelles ensuite l'édifice aurait pu être bâti sans danger. En 5 ans, il était, je crois, possible de réunir les conditions d'une intégration européenne saine. En 5 ans, on aurait pu réaliser l'harmonisation des charges sociales, on aurait pu définir et mettre en route une politique agricole commune. Au bout de 5 ans d'un pareil travail commun, le résultat que vous poursuivez aurait été obtenu sans que nous courions les terribles risques auxquels vous nous exposez aujourd'hui. L'intégration et l'unification européenne auraient été d'autant mieux réalisées que dans l'intervalle, des éléments communs, notamment une politique d'investissement coordonnée entre les différents pays, auraient apporté à chacun la preuve que l'intégration, ce n'est pas ce champ clos, violent, où toutes les rivalités vont pouvoir se donner libre cours, mais au contraire, une construction faite pour le bénéfice de chacun et de tous. Je crois que cette façon de procéder, la construction des fondations et du rez-de-chaussée avant celle du 6e étage et du toit, aurait été beaucoup plus logique et finalement plus efficace. Tandis que plane sur cet immense sujet tant d'incertitudes, que nous avons tant de raisons, les uns de douter, les autres d'hésiter, il nous faut maintenant, par votre exigence, répondre d'extrême urgence par oui ou par non. Pour quel motif ? Sous quel prétexte ? Un intérêt national immédiat est-il donc en jeu ? Y a-t-il un péril menaçant pour la France ? Une telle précipitation est d'autant moins justifiable qu'elle coïncide paradoxalement chez nous avec une crise intérieure qui devrait au contraire nous dicter la prudence. Prudence dans nos prévisions et surtout dans nos engagements pour l'avenir. Le déficit actuel de notre balance des paiements, l'épuisement de nos réserves de devises, la nécessité où nous sommes de recourir à l'encaisse de la Banque de France, tout cela nous place évidemment en position d'infériorité dans la concurrence internationale. Décider à bref délai d'entrer dans le marché commun alors que nous sommes dans une telle situation, c'est souscrire d'avance à l'hégémonie de l'économie d'un autre pays. Et comme c'est vers une fédération que nous allons, c'est admettre d'avance que le pouvoir fédérateur résidera à Bonn. Je pose la question à l'Assemblée. Pouvons-nous tirer un chèque en blanc ? Pouvons-nous faire ce pari ?
L'écart entre la France, historiquement protectionniste, et l'Allemagne, tournée vers l'investissement et l'exportation, c'est une des questions centrales de ce débat à l'Assemblée nationale, qui s'est terminé par un vote de ratification par 342 voix contre 239 du côté de la coalition pro-européenne, un peu les mêmes forces politiques qu'aujourd'hui, les socialistes, les centristes, les démocrates chrétiens et les libéraux. Première question donc, la France a-t-elle davantage à gagner ou davantage à perdre à jouer le jeu européen ? Et puis il y a une autre question qui demeure aussi aujourd'hui, la place de l'Europe dans le monde. Nous voici en effet venus à un moment crucial et il n'est pas sûr que la sauvegarde à 27 de ce qui a été construit, souvent de guingois, voire de travers, s'avère plus difficile encore que la négociation du traité à 6 en 1957. Non seulement l'édifice s'est lézardé, mais il est pris maintenant sous les feux croisés des nationalismes autoritaires qui surgissent d'un peu partout. Et les États-Unis, qui avaient protégé en 1957 la construction de l'Europe, guettent maintenant sa ruine. Et comme nous vivons dorénavant à front renversé, voici que l'Allemagne, dont chacun se méfiait il y a 60 ans, devient le porte-parole de la liberté, du monde libre, comme on disait, monde libre dont la survie se joue ici, sur notre continent, entre Européens. L'édifice est lézardé, on pourrait même dire qu'il y a le feu dans la maison et que l'Europe a besoin de pompiers, mais aussi d'architectes. Ceux-ci, mais sont-ils des architectes, se réunissent pour la célébration du traité à Rome ce week-end.
Cette séance au théâtre du Vieux Colombier était réalisée avec les comédiens français Michel Favori, Bruno Raffaelli, Stéphane Varupen, Benjamin Laverne, Sébastien Poudrou, Christophe Montenez et, dans la salle, Alexis Chevalier, Grégoire Roqueplot et l'ancien réalisateur de la Marche de l'Histoire, Jacques Sigal. Celle-ci était réalisée par Stéphane Ronxin avec Benjamin Perru, Adrien Gaza, Gilles Manet. La restitution du texte était effectuée par Isor Pisani-Ferry.